France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vallée de la Barousse et le Val d'Azun, deux recoins splendides des Hautes-Pyrénées pour deux initiatives rurales aujourd'hui. Les carnets, vous le savez, proposent chaque jour un inventaire d'initiatives et de solutions à la ville et à la campagne. La parole est à un paysan qui a relancé la vente directe autour de chez lui et qui crée ainsi une communauté de producteurs et productrices, un lien précieux pour rompre la solitude paysanne. Ensuite, j'appelle une tisserande qui veut que perdurent les gestes de la laine. Elle est convaincue que cet artisanat, qui est un patrimoine des Pyrénées, doit être partagé au plus grand nombre afin de perdurer. Alors elle propose des stages et des ateliers au grand public pour apprendre à travailler la laine rustique. Je vous rappelle le slogan de cette émission. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et j'accueille une bande organisée dans les carnets, la bande organisée des travailleurs de la terre, acronyme la BOT. Bonjour Michael Siméon.
Oui, bonjour Dorothée.
Vous êtes l'un des membres de la BOT, éleveur de brebis en vallée de la Barousse. Vous avez créé un marché paysan à Sarpe, village de 105 habitants. Marché mensuel qui propose des produits locaux, qui existent depuis un peu plus d'un an et qui marche très bien. Comment se porter la vente directe dans le coin avant que ne sévisse votre bande organisée?
Il y a toujours eu des paysans dans la vallée qui faisaient l'effort de vendre en direct, mais c'était pas non plus la majorité. Du coup, sachant que sur la vallée, il restait qu'un seul marché, le vendredi matin à Lourbarousse, qui est le marché traditionnel de la vallée. Mais il y a peu de producteurs de la vallée, en fait, qui sont sur ce marché. C'est pas mal des gens qui viennent d'à côté. Et du coup, voilà, on trouvait que ça avait du sens de refaire un marché dans la vallée parce que, bah, ça fait vivre un peu le lieu quand même.
Le marché se déroule une fois par mois, chaque deuxième mercredi du mois, et le prochain est prévu demain, mercredi 12 novembre, avec des produits locaux. Donc, quels sont vos critères? Une distance maximale?
Oui, on est resté en fait sur un rayon de 75 km autour du marché de Sarpe. Alors, à savoir, on a des quelques productions, voilà, qu'on a essayé de mettre en avant. Notamment, il y a une dame qui fait du chocolat, qui est à Barbazan. L'atelier de transformation est à Barbazan, donc forcément, sa matière première vient pas de 75 km. Mais c'est quand même des exceptions. On essaye de vraiment valoriser les productions locales, quoi.
Quelques exemples des produits qu'on trouve dans ce marché?
Alors, sur le marché, on va trouver plusieurs maraîchers. On va retrouver donc du fromage. Donc, il y a notre ferme avec ma compagne et il y a deux autres fermes fromagères qui participent au marché. On va trouver des tisanes, on va trouver des sirops, on va trouver des confitures, voilà, plein de bonnes choses du coin.
Et quelle est l'ambiance de ces marchés?
Alors, c'est plutôt on voulait mettre en avant, en fait, la convivialité. On a fait l'association de producteurs aussi pour ça, où, en fait, le concept, c'est qu'on sert des repas. Et, en fait, en gros, l'idée, c'est des repas qui sont uniquement élaboré avec les produits, voilà, des gens qui sont là au marché, des producteurs. Et en fait, le concept, on met des grandes tables et les gens mangent tous ensemble. Voilà, du coup, ça permet aussi de passer un moment. Ils peuvent prendre du temps pour en discuter avec les paysans qui sont présents, partager un verre aussi, parce que on propose de la vente de bière qui est brassée artisanalement dans la Barousse aussi.
On vient en famille à votre marché?
Alors oui, tout à fait. Il y a pas mal de gens qui viennent avec les enfants et même les paysans aussi viennent avec leurs enfants. Et à ce sujet, il y a une asso qui travaille avec nous depuis le début qui s'appelle Rebelote 65. Et du coup, elle anime un stand ludique. Voilà, elle a une ludothèque. Il y a une salariée qui vient, qui met en place des jeux. Donc, c'est aussi bien pour les enfants que pour les grands. Et ça amène quelque chose sur l'ambiance du marché.
C'est beaucoup plus qu'un marché, votre truc.
On essaie un peu de faire vivre ce moment. C'est assez typique parce qu'il y a vraiment un espace de convivialité et les gens s'y sentent bien, quoi. C'est important.
L'idée était aussi de créer une communauté de producteurs et de productrices?
Voilà, oui, tout à fait. En fait, on voulait vraiment créer du lien, c'est-à-dire on est beaucoup de jeunes installés qui sont pas forcément du coin, on va dire. C'est souvent des exploitations qui sont dites hors cadre familial. Donc c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui font le choix un peu audacieux de s'installer paysan. Et donc du coup, l'idée c'était quand même de se dire on est assez isolé dans nos métiers, et donc l'idée c'était quand même de pouvoir se retrouver à plusieurs en tant que paysan et d'organiser les repas nous-mêmes. Donc on essaye de vraiment trouver du temps entre producteurs pour se retrouver et sortir un peu aussi de nos quotidiens qui sont un peu des fois laborieux, on va dire.
Si je vous comprends bien, la BOT, la bande organisée des travailleurs de la terre, ce sont plutôt des néo-ruraux, comme on dit. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas réussir à toucher les paysans du cru ?
Alors, en fait, sur le coup, oui, c'est vrai que c'est l'initiative de... Donc, on est deux fermes à l'initiative de la BOT. Donc, c'est plutôt une ferme d'élevage, on va dire, où on fait du fromage. Et celle, on a un voisin qui est maraîcher. Et du coup, avec ce maraîcher, on a réussi à fédérer un groupe de paysans. On a fait de la communication vis-à-vis des paysans du secteur. Il y en a quand même quelques-uns de la vallée qui participent au marché, mais on aurait aimé que ce soit un peu plus large. Après, c'est vrai que chez nous, c'est assez spécifique où dans le fond, il y a surtout des fromagers qui font de la vente directe et la plupart des élevages viande, c'est plutôt de la vente à un tiers, ils font pas de vente directe, ils ont peu la culture de vente directe, et donc du coup ces gens-là, ces paysans-là n'ont pas intérêt à participer au marché, mais on a quand même deux fromagers de la vallée, du cru du coup, qui participent au marché, qui sont très contents, et du coup c'est quand même une réussite quoi.
Parlons un peu de vous s'il vous plaît, Michaël. J'aimerais savoir comment vous êtes passé des jardins du château de Versailles à votre ferme dans la vallée de la Barousse.
Et oui, à l'origine, oui, j'ai passé un bac pro en horticulture, donc j'étais en apprentissage au château. Et après, j'ai voyagé un peu au Canada, et là-bas, j'ai fait du woofing, donc une association où on fait du bénévolat dans des fermes bio. Et du coup, ça m'a un peu donné envie de rentrer en France et de m'installer paysan. Et donc, j'ai fait une formation après pour adultes, une formation de berger. Et du coup, après cette formation, j'ai pu, parce que je suis berger salarié l'été, en fait. Je suis paysan avec ma compagne. On est paysan à la ferme, toute l'année. Mais c'est vrai que moi, l'été, je pars avec le troupeau de moutons dans les estives. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie un peu de m'installer en agriculture. Après tout ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui, Michaël ?
Ce qui est le plus valorisant pour nous, c'est quand on a les retours en fait des gens sur les marchés qui apprécient notre fromage, qui apprécient les produits qu'on peut vendre à la ferme, et aussi je trouve que de plus en plus les gens sont sensibles à ce phénomène-là où dans le fond les campagnes se sont quand même vidées. Il y a très peu d'enfants de la vallée qui restent pour reprendre les fermes. Alors il y en a, mais pas beaucoup. On est beaucoup sur des agrandissements d'exploitation. Et donc du coup, on voit bien que les gens, ils sont contents de voir que le terroir, il réussit quand même à vivre, même si c'est pas avec des enfants du pays, ils sont quand même contents de voir qu'on récupère ça. Moi, nous, on a acheté un vieux corps de ferme en 2019 qui était abandonné depuis les années 50. Et donc les gens, ils voient aussi que ça permet de remettre en valeur le patrimoine de la Barousse, qui sinon serait aujourd'hui ce serait en ruine quoi.
La BOT, la bande organisée des travailleurs de la terre, c'est donc à Sarpe dans les Hautes-Pyrénées, avec un marché une fois par mois, et le prochain est prévu demain, mercredi 12. Merci beaucoup, Michaël.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Savez-vous laver à la main de la laine fraîchement tondue ? Savez-vous la carder, la filer et la tisser ? Ce sont des savoir-faire ancestraux qui se sont perdus peu à peu et qu'un atelier entend transmettre au grand public dans les Pyrénées. Nous sommes à Bain, tout petit village du Val d'Azun. Bonjour Marjorie Dulhomme.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes artisane tisserande et vous êtes la créatrice de cet atelier baptisé de laine et de bois. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous que la population se réapproprie ce travail de la laine ?
Ce travail de la laine, il est important pour nous. Il est important de se le réapproprier dans le sens où il est notre carte d'identité, clairement. C'est notre héritage commun à tous, à chacun. Et autrefois, c'est ce qui a permis aux gens de survivre dans ces vallées. À vrai dire, je viens d'une famille d'éleveurs. On avait des brebis à la maison. Et la laine, je l'ai toujours vue gaspillée, en fait. Et lorsque je me suis intéressée à cette matière, savoir comment la travailler et pourquoi aussi on ne la travaillait plus, je n'ai trouvé personne dans les Pyrénées qui était en mesure de me montrer ce travail, en fait, qui était largement pratiqué autrefois. Et donc, j'ai dû apprendre ailleurs, dans les pays de l'Est, donc notamment en Lituanie. Et donc, c'est là où on m'a tout montré, comment transformer la laine, donc de A à Z. Et bon, je me suis particulièrement intéressée au tissage. Et donc, c'est en revenant ici, chez moi, dans les Pyrénées, où je me suis dit, ben, finalement, plutôt que de refaire des produits à vendre, je m'apercevais en fait que les techniques, les compétences de transformation de la matière avaient clairement disparu, pratiquement disparu, et je me suis dit, mais c'est là où est l'urgence en fait de les transmettre, de les faire revivre en fait. Voilà.
C'est fou hein, de penser que vous êtes allé en Lituanie pour apprendre des gestes qui sont ancestraux dans votre territoire.
Ouais, alors bien entendu, il y avait dans d'autres régions françaises des gens qui étaient en mesure de montrer hein, ces compétences de transformation. Alors le souci, c'est que bon, c'était vraiment très très cher, donc je ne pouvais pas y avoir accès, étant encore parfois étudiante. Et ensuite, bon, je me disais que finalement, c'était souvent des petits modules d'apprentissage, on ne voyait pas tout dans son ensemble. Et lorsque donc je suis allée dans ces pays, comme il y avait donc la Lituanie, c'est le pays où j'ai vraiment appris le tissage traditionnel, le tissage à bras, et d'autres pays comme par exemple la Lettonie, la Roumanie, la Pologne, dans des petits villages, il y avait encore des dames donc qui transformaient tout. Et ça, c'était vraiment intéressant d'avoir cette vision en fait de pouvoir transformer la matière. Très rustique, hein, forcément, mais d'avoir ces compétences, de pouvoir passer d'une toison à un fil, en fait, en quelques compétences. Voilà, c'était intéressant.
Alors, comment procédez-vous concrètement, Marjorie, pour transmettre au grand public ces gestes et ce savoir-faire avec l'atelier de laine et de bois ?
Alors, l'atelier, tout petit atelier, bien sûr, ouvre donc ses portes au public. Par exemple, des gens veulent une écharpe ou des chaussons en laine. Donc, les gens viennent et apprennent à faire eux-mêmes avec le moins de matériel possible. Ainsi, ils peuvent donc remettre à profit les compétences acquises lors du stage donc à la maison pour voilà, perpétuer les gestes finalement.
Est-ce que ce ne serait pas idéal pour souder les équipes dans ce qu'on appelle le team building, Marjorie ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est déjà en fait en pratique, dans le sens où je travaille avec une organisation toulousaine qui s'appelle Passepassion et donc qui met justement en relation le grand public et les artisans, ou alors les comités d'entreprise aussi, avec les artisans. On peut aborder toutes ces techniques et transformer la matière en toute simplicité, avec peu de matériel, pour en faire des ouvrages assez chouettes.
Peu de matériel, dites-vous. D'ailleurs, le nom de cet atelier de laine et de bois, c'est une référence à un objet en bois ?
Voilà, exactement. Parce qu'en fait, on a pris le parti dans l'atelier de n'utiliser vraiment que des outils les plus primitifs, on va dire. Donc, tout est transformé à la main et avec des outils en bois. Par exemple, les métiers à tisser que j'utilise sont tous en bois. Donc, on dit des métiers à tisser à bras. Donc, ils sont mécaniques de façon vraiment artisanale au sens le plus pur du mot.
De laine et de bois, c'est donc à Bain, dans les Hautes-Pyrénées. Un grand merci, Marjorie Dulhomme.
Merci à vous.
À bientôt, bonne journée.
Merci, au revoir, bonne journée à vous.
Je rappelle que le territoire de Belfort et le Doubs seront bientôt à l'honneur dans les carnets. Vous pouvez nous écrire hein, sur le site de France Inter pour nous signaler des gens géniaux et des initiatives réjouissantes dans ces départements, du côté de Belfort et Besançon.